Radio de la Paix, la grande interview.
Ben Diakité.
Bonjour à tous, bienvenue à l'émission La Grande Interview, avec pour invité le colonel-major honoraire Jean-Hubert Wassena. Avec lui, nous parlerons de lutte contre l'extrémisme violent, ou si vous préférez, de lutte contre le terrorisme. Quelle part les populations peuvent-elles prendre dans cette lutte? Ce sont là autant de préoccupations auxquelles tenteront de répondre notre invité, en l'occurrence ici, le colonel-major honoraire Jean-Hubert Wassena. La Grande Interview réalisée Antoine Kouassi, présentation Ben Diakité.
Radio de la Paix, la grande interview.
Colonel-major honoraire Jean-Hubert Wassena, bonjour et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Depuis quelques temps, vous êtes à la retraite. Alors, comment vous occupez vos temps?
Bien, merci Ben pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à votre émission Radio Diffusée pour parler du phénomène redoutable qu'est le terrorisme. Effectivement, depuis le 31 décembre 2021, j'ai fait valoir mes droits à la retraite et je m'occupe par des consultances, par beaucoup de lectures et par un peu d'agriculture, puisque la terre nourrit toujours son homme et il faut toujours retourner à la terre.
On sait que vous étiez aussi très féru de sport, d'activité sportive. Est-ce que vous continuez toujours l'activité sportive après donc ces années de service?
Oui, je continue l'activité sportive. J'ai toujours mes 3 séances de sport par semaine. Et je pense qu'il n'y a que le sport pour nous maintenir.
Merci beaucoup, colonel-major, pour ces explications sur vos occupations. Nous allons revenir de plein pied dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Comme je le disais tantôt en introduction, il s'agit bel et bien de la lutte contre l'extrémisme violent. Récemment, le ministère de l'Économie et des Finances, en lien avec le ministère de la Justice, en lien également avec le ministère de l'Intérieur, a publié un communiqué qui fait état de l'interpellation de personnes pour faits de terrorisme. Alors, pour nos populations, c'est quoi le terrorisme? Pourquoi ces personnes sont interpellées?
Ben, comme vous le disiez tantôt, notre pays a récemment interpellé 29 personnes et a gelé leurs avoirs. La liste de ces prévenus a même été publié dans la presse. Le terrorisme, c'est un phénomène multiforme. Le terrorisme, c'est l'usage de la terreur comme moyen de domination physique, économique, religieuse, politique, psychologique, sociale et culturelle. C'est également un régime de terreur politique. C'est en fait tout type de violence menée contre les civils et destinée à frapper l'opinion publique. Ces violences sont des attentats, des assassinats, des enlèvements et des sabotages. Et le concept de terrorisme, c'est l'ensemble de tous les usages de la terreur pour dominer des êtres humains.
Sur la base du communiqué qui a été publié donc par les services du gouvernement, il y a des personnes qui sont soupçonnées de terrorisme et ces 29 personnes-là ont été interpellées. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire?
Pour qu'il y ait acte de terrorisme, il faut qu'il y ait un commanditaire et un commandité. Il faut donc qu'il y ait bien quelqu'un qui finance et quelqu'un qui exécute. Alors, si ceux-là ont été interpellés, ils ont été interpellés parce qu'ils étaient en train de préparer une exécution d'un acte de terreur, donc de terrorisme. À partir de ce moment précis, il faut se poser la question de savoir qui est derrière.
Alors, mon colonel, ceux qui posent ces actes-là, est-ce que ce sont des gens qui ont un lien avec l'armée? Est-ce que ce sont des civils? Est-ce que c'est des spécialistes du maniement des armes? Qui sont-ils généralement?
Ben, écoutez, c'est les trois. Il y a des spécialistes, par exemple les engins improvisés, des engins explosifs improvisés qu'on appelle IED, qui sont préparés par des spécialistes. Vous avez des anciens militaires ou même des militaires qui sont des mercenaires qui préparent toute la planification. Et enfin, vous avez le citoyen qui est recruté, qui est enrôlé pour une certaine somme précise pour pouvoir aller combattre. Mais on ne leur dit jamais, on ne dit pas à ces combattants-là ce pourquoi ils s'en vont. On va leur raconter une histoire, on va essayer d'imposer un problème religieux, un problème ethnique, un problème racial. On le disait tantôt que les causes, la terreur peut être religieuse, politique, psychologique, sociale et culturelle.
Pourquoi on n'arrive pas à les cerner, à les tracer? Les pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire elle-même aussi, a parfois été malheureusement victime des actes terroristes. Pourquoi on peut poser de tels actes?
Mais
pour quel intérêt?
Pour des intérêts, nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pourvu que nos intérêts ne soient pas touchés. Si on prend le cas de Bassam, ils sont bien partis de quelque part. Ils ont été conduits à Bassam, ils ont eu un tuteur, ils ont attendu les ordres de leur hiérarchie pour passer à l'action. Mais ils sont tous comme ça, c'est la stratégie.
Pourquoi on fait des enquêtes, non pas seulement militaires, je veux dire des enquêtes aussi économiques dans le cadre donc de ces actes terroristes-là? Pourquoi on recherche des traces économiques dans cette activité de violence, surtout lorsqu'on interpelle les commanditaires ou des personnes qui peuvent passer à l'acte?
Parce que tout simplement, le terrorisme a besoin d'être financé. Il est financé comment? Il est financé par l'exploitation qu'ils font. Quand ils viennent, qu'ils chassent les populations d'un territoire qui a des ressources minières, automatiquement, ils exploitent ces ressources-là et ces ressources, ça leur permet d'avoir de l'argent. Et une enquête a été menée par le journaliste Daniel Cohen qui dit que la France a payé 200 millions d'euros aux terroristes pour rançon pour libérer les otages en 2014. 200 millions d'euros, si je le multiplie par 656, je tourne autour de 131 milliards 400 millions. Donc rien que l'enquête de Daniel Cohen nous montre l'importance et la masse d'argent qui circule dans ce domaine-là. Automatiquement, il faut bien faire une enquête économique parce que s'ils ont pris l'argent, s'ils ont reçu de l'argent, ils vont réaliser des choses. C'est tout comme on a une loi, tous ceux qui vendent de la drogue, quand ils réalisent des choses avec l'argent de la drogue, l'État met la main dessus. C'est la même chose.
Autre question, mon colonel Jean-Hubert Wassena, les personnes qui sont indexés comme étant des auteurs, ils viennent dans des régions et ils jouent sur les thèmes d'entraide, de soutien aux populations, de dons et de médicaments. Et là, très souvent, où on dit l'État est absent. Alors donc, ils se substituent à l'État, ils soignent, ils font des dons, ils donnent des alimentations. Et du coup, ils arrivent à avoir, comme on dit, des personnes.
Quand vous regardez la plupart de nos pays africains, il y a toujours une partie du territoire qui est délaissée. Mais dans la stratégie, l'ennemi viendra toujours de cette partie délaissée. À partir de ce moment précis, on a toujours tendance à développer la capitale et à délaisser le reste du pays. Mais c'est les mêmes populations. Le pays a des richesses, il faut que les richesses soient également reparties. Quand on néglige une population, on fait le nid au terrorisme, ils deviennent donc des proies faciles à recruter. Nous avons vu chez nous ici dans le Nord, il a fallu aller faire des sensibilisations à nos populations pour qu'elles n'acceptent plus que quelqu'un vienne leur proposer une moto, vienne leur proposer 50 000 francs par mois pour qu'ils aillent détruire leur pays. Non, mais il faut qu'on fasse des sensibilisations. C'est parce que tout simplement, quand vous regardez les capitales africaines et les autres parties du pays, il y a une inégalité d'infrastructures telles que les autres se sentent délaissés et abandonnés, automatiquement, ils deviennent une proie facile.
Comment on explique que l'État de Côte d'Ivoire a vraiment investi ou investi beaucoup de projets jeunes dans le nord de la Côte d'Ivoire? En quoi ces projets peuvent lutter contre le terrorisme, par exemple?
Écoutez, la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont perçu la problématique. Ils ont donc commencé à développer toutes les zones qui avaient été délaissées. Aujourd'hui, vous allez dans le Grand Nord, on part d'Abidjan, c'est bitumé jusqu'à Kongo, c'est bitumé jusqu'à Tingrela, c'est bitumé jusqu'à Odiné. Et même entre les villages, l'État de Côte d'Ivoire fait l'effort d'investir, de mettre en place de bonnes infrastructures dans ces domaines-là. Et avec le système d'emploi jeune, il se trouve que les jeunes présentent des projets et ça fait qu'on les sort de la recherche du premier emploi, on les sort du chômage. Et avec toutes les sensibilisations qui sont faites, ils comprennent qu'il ne faut pas s'adonner à de l'argent facile.
Pourquoi l'armée, je vais dire l'armée, la police, la gendarmerie, toutes ces forces de défense et de sécurité, entre guillemets, ont du mal à contenir le terrorisme? Pourquoi, je vais dire, l'armée, quand on voit les militaires, les équipements, les tenues, quand on voit le nombre de personnes que vous êtes, on se dit vraiment, en termes d'effectifs, il n'y a pas match. Mais cependant, force est de constater que vous êtes toujours en alerte et que vous êtes toujours sur le qui-vive par rapport à ça. Qu'est-ce qui explique que c'est difficile?
Quel est le ratio population militaire? Vous avez une population de pratiquement 30 millions d'habitants, vous n'avez même pas 30 000 hommes. Il y a problème. Il y a certes un maillage, mais l'effectif qu'on a ne nous permet pas d'être à tous les points de frontière. Il y a des points de frontière officiels où tout le monde est tenu de passer, mais vous connaissez la porosité de nos frontières en Afrique. C'est des frontières qui ont été établies par le colonisateur, mais sans tenir compte de l'ethnie qui se trouve à cette frontière-là. Par exemple, à l'ouest, la même ethnie se retrouve au Libéria. Vous allez du côté d'Odiné, c'est la même chose. Vous allez du côté de Wangolo, c'est la même chose. On a des parents de part et d'autre. Ou les chambres sont au Ghana, le salon en Côte d'Ivoire, parce que la borne de la frontière, la maison est entre les deux pays.
Jean-Hubert Wassena, quelle contribution les populations civiles peuvent-elles apporter dans la lutte contre le terrorisme?
Cette question-là m'amène à quelques propositions de solutions que nous proposons. D'abord, la première proposition, c'est que lutter contre le terrorisme est un devoir citoyen. Déjà ça, que nous sommes en Côte d'Ivoire, que chaque Ivoirien comprenne que lutter contre le terrorisme est un devoir citoyen. Il faut renforcer les capacités militaires et sécuritaires de nos armées. Il faut renforcer la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Il faut renforcer le lien armée-nation par des actions civilo-militaires, rééduquer l'Africain de manière à le ramener à ses valeurs traditionnelles. Développer chez chaque Ivoirien l'amour de son pays par le retour du service militaire obligatoire pour tous ceux qui ont 18 ans et du stage de commandement pour tous les fonctionnaires. Sensibiliser les populations sur les modes opératoires, les modes de recrutement et la présence des cellules dormantes. Lutter contre la pauvreté. Avoir une meilleure répartition des richesses du pays, assurer le développement harmonieux de toutes nos régions, avoir une bonne politique d'industrialisation dans toutes nos régions, trouver du travail aux jeunes et lutter contre le chômage. Il faut que les populations soutiennent totalement leurs forces de défense et de sécurité. Il faut qu'on évite les querelles intestines telles que religieuses, ethniques et raciales. Il faut une mobilisation générale de tous les Africains. Voici quelques propositions qu'on pourrait développer, mettre des programmes dessus pour pouvoir lutter, pour pouvoir amener les Ivoiriens et les Ivoiriennes à participer à leur propre sécurité.
Alors, lorsque vous dites, mon colonel, major, lorsque vous dites que les populations doivent soutenir l'armée, comment vous pouvez matérialiser ça de façon concrète? Pour quel résultat?
Bien. Le soutien des populations à leur armée, c'est de collaborer avec leur armée. L'armée ne peut pas être partout, compte tenu de l'effectif de l'armée, de la superficie du territoire et des habitants. Mais par contre, nos populations sont dans tous les petits recoins. C'est à eux, dès qu'ils constatent quelque chose d'anormal, de ramener rapidement l'information pour permettre aux forces de défense et de sécurité de prendre les mesures idoines pour pouvoir contrer l'opération qui est en train de se préparer.
On parle d'actions civilo-militaires. Qu'est-ce qu'on doit entendre par ces actions civilo-militaires et quel est l'objectif de ces actions civilo-militaires?
Bien, ces actions civilo-militaires, ce n'est rien d'autre que de rapprocher la population de son armée. Et l'armée a en son sein tous les corps de métier qui existent dans le civil. Donc, par exemple, l'armée peut aller dans les régions, refaire des routes, on a le génie militaire, construire des ponts, faire des barrages. Ça a été fait sous le président Félix Houphouët-Boigny, puisqu'à cette époque-là, on avait le service civique. Et les éléments du service civique, c'est eux qui avaient tous les engins pour faire les barrages, pour faire les routes. Il faut qu'on fasse travailler notre génie militaire qui doit être un génie pour le développement. Voilà. Et puis, ça permet de former la jeunesse dans différents corps de métier. L'armée peut, par son service de santé, déployer des hôpitaux de campagne afin de pouvoir faire des consultations gratuites pour nos populations.
Dernière question, c'est la place du renseignement. On entend souvent dire qu'il faut que nos populations puissent apporter des informations. Le renseignement dans la lutte contre le terrorisme, c'est quoi et quelle est son importance?
Le renseignement dans la lutte contre le terrorisme est très important et il est multiforme. On peut avoir du renseignement parce que c'est un individu qui a vu quelque chose qui est venu le signaler. Je prends l'exemple de Togolokai, où il y a eu deux engins explosifs improvisés qui avaient été placés sur la route, mais c'est un paysan qui les a vus placés et qui allait signaler. C'est comme ça que les unités de déminage ont réussi à déminer. Mais la première fois, on a un ou deux engins qui ont sauté dessus. Donc, d'abord, la population, l'armée, avant d'être militaire, on est d'abord membre du pays. Prenons un peu nos cultures. Nous avons nos fêtes de génération. Dans la fête de génération, il y a plusieurs générations qui partent des plus jeunes, de la génération des guerriers, des sages et compagnie. Mais c'est ça. On doit considérer les forces de défense et de sécurité comme la génération guerrière qui est prête à aller au charbon. Mais c'est toutes les autres générations qui apportent le renseignement, qui apportent leur aide à cette génération-là. Donc, le renseignement se fera par des individus, se fera par des moyens technologiques. Par exemple, des drones de surveillance, des drones de reconnaissance, par des capteurs. Donc, c'est un ensemble multiforme qu'il faut mettre en place pour le renseignement. Mais n'empêche que le plus important dedans, c'est l'être humain.
Alors, de plus en plus, on parle de l'association des femmes dans le renseignement. Pourquoi il faut travailler, j'allais dire, avec les femmes sur les problématiques de renseignement et de sécurité, mon colonel major.
Le renseignement, on le recueille en un premier temps au sein de la population. On le recueille auprès des autorités, alors qu'une femme, ça passe assez facilement et ça peut vous faire parler.
Merci beaucoup, mon colonel major honoré Jean-Hubert Wassena, pour toutes ces réponses à nos préoccupations. C'est la fin de la grande interview. Technique Antoine Kouassi, présentation Ben Diakité. Nous vous donnons rendez-vous pour développer d'autres thèmes d'actualité. Merci de rester à l'écoute des programmes de Radio de la Paix sur la bande des 96.00 à Abidjan et à ses environs.
Venez de suivre la grande interview.